Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. La réalité justifie la fiction. C'est ce qu'affirme notre invité en exergue de son nouveau livre, un récit personnel, mais qui interroge aussi l'acte d'écrire. Et par exemple, est-ce que l'on écrit pour ressusciter ceux qui sont morts et les rendre plus beaux? Est-ce que la littérature permet d'écrire tout ce qu'on ne s'est pas dit? Quelques-unes des hypothèses qui traversent donc ce texte, paru sous le titre « Papa » aux éditions du Seuil, un livre né d'abord d'un moment clé.
Pendant toute la durée de l'occupation allemande, la police française a constitué la principale force du régime de Vichy et le principal atout de la collaboration.
19 septembre 2018, 22 heures à peu près. Je suis posé sur mon canapé, la télévision est allumée, diffusant un documentaire intitulé « La police de Vichy ». Je vois apparaître l'immeuble marseillais du 4 rue Marius Joffré, où j'ai passé toute mon enfance. Ma mère a vécu là jusqu'à son départ en maison de retraite 2 ans plus tôt. J'ai vidé son appartement fin décembre. Le temps de bloquer l'image, l'immeuble a disparu. Je reviens en arrière, je reconnais jusqu'au pavé en céramique du hall d'entrée qu'on distingue dans la pénombre. Une séquence de 7 secondes. 2 gestapistes sortent de l'immeuble avec un homme menotté. Il le traîne jusqu'à une Citroën traction avant. Un troisième homme est au volant. Avec leurs costumes bien coupés, leurs impeccables chapeaux, ils semblent sortis d'une fiction. La scène est un champ contre champ. Au début de l'action, la caméra est plantée face à l'immeuble. La fin est filmée depuis le trottoir. Les gestapistes paradent. En font beaucoup trop, même pour des acteurs amateurs. D'après le commentaire, nous sommes en 1943, quelques mois après l'invasion de la zone libre par les nazis. Dans la famille, personne n'a jamais fait mention de cette arrestation.
Bonjour Régis Joffré.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir lu cette scène d'ouverture de votre nouveau livre et, comme on vient de l'entendre, dans un documentaire, des archives de la Seconde Guerre mondiale, une image furtive de quelques secondes a chaviré l'enfant que vous avez été et l'adulte que vous êtes devenu en découvrant donc votre père sous une facette inédite, celle d'un homme arrêté par la Gestapo en 1943 à Marseille. Un épisode inconnu de vous et de votre famille, un événement extravagant, dites-vous, au regard de l'image totalement différente que vous avez toujours eue sur votre père. Est-ce que ça a été un choc pour vous ?
Oui, ça a été un grand choc parce que c'était effectivement un autre père que celui que je connaissais. Parce que le père que je connaissais, il lui était jamais rien arrivé. Et ce qui était le plus saisissant, c'est que personne n'avait jamais parlé de cet incident. Dans les archives de la police, il ne figurait pas. Et quant aux archives de la Gestapo, elles ont été détruites comme à peu près partout, donc il n'y avait pas de traces. Donc, mon enquête, en gros, s'est arrêtée là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant un mystère total et absolu. Alors, la chose épouvantable que je garde, c'est que c'était une arrestation honteuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a parlé? Alors, moi, je dis que j'aurais parlé. Tout le monde aurait parlé, enfin, la plupart des gens. Est-ce que c'est quelque chose... Je vois pas, parce que pourquoi aurait-il été arrêté? Si ça avait été un résistant, il n'en serait pas sorti. Là, visiblement, il est sorti dans la journée. Pourquoi n'a-t-il pas raconté ça? Parce que s'il avait été arrêté par erreur, c'est une genre d'anecdote tellement extraordinaire que normalement il aurait dû la raconter. J'ai demandé à ma mère à l'époque et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler. Elle m'a dit c'est bizarre parce qu'il aimait bien raconter ses histoires. Donc voilà. Donc c'est un mystère total. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, et en même temps, comment se fait-il qu'on a pu garder cet événement secret? Ça, c'est incompréhensible.
Et bien entendu, vous ne pouvez pas lui poser la question puisqu'il est décédé il y a une trentaine d'années.
Exactement.
Donc vous vous retrouvez devant un certain nombre d'impasses. Régis Joffré, vous n'aurez jamais la réponse à toutes vos questions. Et de fait, pourquoi décidez-vous d'en écrire un livre? Est-ce que là jaillit surtout en vous l'idée de faire le portrait de ce père à côté duquel peut-être vous êtes passé?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai été un peu émerveillé au fur et à mesure d'arriver à en parler. C'était mon père, j'en avais jamais parlé à personne, et même pas à mes enfants, qui l'avaient pas connu, parce qu'ils étaient, mon fils aîné était né après sa mort. Et donc, j'ai été émerveillé d'arriver à en parler à mon âge, parce que j'aurais jamais pu imaginer. C'était un personnage dont j'étais pas du tout fier. C'est un personnage, bon, j'étais dans un milieu de bourgeoisie, on va dire, provinciale, et il était sourd. Il était bipolaire et sous haloperidol, c'est un neuroleptique. Voilà. Ouais. Il était éteint, j'allais dire. Le neuroleptique l'avait éteint, un peu comme une lampe. Et donc, j'ai vécu avec ce père qui était toujours là, hein, qui était un père présent, il était toujours là. Et j'ai eu aucun dialogue avec lui, j'ai jamais fait aucune activité avec lui. J'ai très peu de souvenirs de lui, j'ai essayé de les donner, il y en a quelques-uns, il y en a peut-être un ou deux que j'ai oubliés. Mais vraiment, franchement, rien. Et pourtant, il était là. C'était pas un père violent. C'était pas. J'ai pas de reproche à lui faire. Et j'ai été très effaré, personnellement, d'arriver à en parler. Je pensais que. C'est au fur et à mesure, je me suis aperçu que je pouvais en parler, que je pouvais dire tout ça. Et si vous voulez, c'était pas du tout dans mes projets d'en parler un jour. Hein. Ça, alors là, c'est vraiment la vision de ce reportage qui m'a amené à l'écrire. C'est vraiment par hasard.
Ça a ouvert les vannes. Parce que c'est vrai, du coup, vous racontez des souvenirs d'enfance. On va vous essayer de reconstituer un peu cette image paternelle, avec cet homme en effet réservé, donc handicapé par cette forte surdité sous l'emprise de médicaments. Vous êtes enfant unique. On a l'impression avec vous que vous grandissez un peu en parallèle de cet homme sans vraiment jamais vous parler. Mais en même temps, au fur et à mesure de la lecture, on se dit, Régis Geoffrey, est-ce que cette réserve, cette mise en retrait... certainement lié à sa coupure avec le monde des entendants, n'a pas joué en sa défaveur et finalement fait rentrer dans sa coquille un homme et dissimulant sa vraie personnalité.
Ah oui, c'est probable, mais moi sa vraie personnalité, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais connue. Moi je l'ai connu tel qu'il était. Après, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de reconstituer, un peu comme quand on a un os de mammouth et une dent, on essaie de reconstituer le reste de la personne, de la bête. Et là, j'ai essayé de me reconstituer mon père à partir des rares éléments que j'avais. C'est très dur et très difficile d'imaginer qu'en fait, il était là et que j'ai très peu d'éléments sur lui, alors que j'ai été avec lui pendant 22 ans, 24 heures sur 24 quasiment, puisqu'il était à la maison presque tout le temps.
Mais est-ce que vous avez l'impression aussi, Régis Geoffrey, qu'il a fallu passer peut-être le cap de la soixantaine, voire 30 ans d'absence, pour que enfin vous ayez plus de compréhension envers lui, alors que peut-être enfant, vous rêviez d'un autre père, vous aviez envie d'autres relations avec la figure paternelle, et qu'aujourd'hui vous êtes plus en mesure de comprendre que vous étiez l'un côté de l'autre, mais que ça ne nuisait pas forcément à l'amour réciproque que vous aviez l'un envers l'autre.
Peut-être que c'est le temps, mais j'ai pas eu le choix. Enfin, je sais pas, parce que là, c'est pas un mouvement intérieur qui m'a amené à écrire ce livre. C'est vraiment ces images. Alors après, l'amour, oui, mais l'amour, vous savez, comme je dis dans le livre, c'est assez facile d'aimer ses enfants. Hein. C'est pas une performance d'aimer ses enfants. Hein. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était difficile. Il y a d'autres choses dans la... C'est plus difficile d'apprendre à conduire que d'aimer ses enfants. Hein. C'est pas, ça me paraît pas très compliqué. Alors après, c'est est-ce que il a été un père pour moi ? Et il a été très peu. J'ai un tout petit peu de père avec lui. Alors, en réalité, je serais beaucoup plus tendre et avec lui et indulgent, j'allais dire. Mais quand vous revenez dans votre enfance, et avec le temps, vous avez un personnage, parce que c'est un personnage différent de vous. Lacan disait « j'ai toujours 5 ans », moi je ne le crois pas. C'est un personnage différent de vous, c'est l'enfant que vous avez été. Et c'est pour ce personnage que vous avez été que je me dis, je peux pas le laisser tomber, je peux pas dire comme ça, oui, mais il était ainsi, il était... Non, c'est un personnage qui a souffert atrocement de ce père qui n'était pas père, qui était tellement peu père, qui était quelque chose qui détonnait dans le milieu où j'étais en même temps, parce que tout le monde avait une profession, tout le monde autour de moi, et là j'avais un père qui avait une profession indéterminée, qui en fait était incapable de réellement faire un travail.
À cause de sa surdité.
À cause de sa surdité, à cause de sa bipolarité, à cause du fait qu'il a eu, c'est assez mystérieux, hein, qu'il a eu une méningite quand il était enfant et que donc ça viendrait de là. Voilà, il y a d'autres hypothèses, mais bon, il y a une hypothèse aussi qu'il a perdu, ça c'est lui qui l'avait confié à ma mère, c'est qu'il avait perdu de faculté de réflexion. Il avait senti un seuil intellectuel après cette méningite, alors qu'avant, on aurait dit aujourd'hui qu'il était surdoué. Voilà, avant cette méningite. Et après, il y avait un seuil de compréhension. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'a pas fait d'études, etc., etc. Parce que le fait de ne pas entendre n'aurait pas dû l'empêcher de faire des études, de lettres, puisqu'il était très, très cultivé, etc. Voilà, donc tout ça, ça fait voilà, une enfance. Vous avez eu une enfance comme ça, elle a été tirée au sort. En même temps, on n'a pas beaucoup de raisons de se plaindre quand on voit tous ces enfants dehors qui meurent de faim. On a envie de dire bon, vous avez eu un père sourd, et alors ? Voilà, c'est la pensée qui me vient aussi. Mais c'est plutôt par rapport à cet enfant que je vois comme un autre, en fait.
Mais néanmoins, il y a bien eu un avant et un après. Un père tel que vous l'avez envisagé jusqu'à vos 60 ans. Et après, la vision de ce reportage qui a un peu remodelé l'image que vous aviez de lui ou pas ?
Oui, bien sûr. Je ne m'étais jamais penché sur lui en réalité. C'était un personnage qui était non pas oublié peut-être, mais figé. Et là, j'ai essayé de le trouver. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais j'ai réussi à l'inventer. Puisque j'avais pas de père, je l'ai inventé. Puisque j'avais très peu de père, et ben j'ai inventé ce qui me manquait de ce père.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Régis Geoffrey pour parler de son nouveau livre intitulé « Papa » aux éditions du Seuil. Un récit, on l'a dit, né un peu d'un hasard, d'un mystère, celui du père donc, qui dans sa jeunesse, pendant la Seconde Guerre mondiale, aurait été un homme bien différent de celui dont son fils, notre invité, se souvient. Et de fait, comme un puzzle, vous reconstituez ici et là les pièces éparses de votre mémoire, les souvenirs qu'il vous reste pour dresser le portrait d'Alfred Geoffrey. Et en même temps, est-ce que l'écrivain, l'auteur de fiction que vous êtes, a eu du mal ou pas à rester fidèle à cette réalité sans trop au début chercher à l'enjoliver ?
À l'enjoliver, non. Non, ça, j'ai pas. Ça, il n'y avait pas du tout cet état d'esprit. Mon seul état d'esprit, c'était de rester près de la vérité. Et au contraire, quand je parle de moi, au contraire, j'arrange pas les choses parce que ça m'amuse beaucoup de me prendre comme personnage de fiction. En fait, dans ce livre, j'ai voulu être très proche de la vérité, c'est-à-dire dire la vérité, toute la vérité que je savais. Après, il me manquait des éléments. Par exemple, que mes parents étaient partis en voyage de noces à Florence. mais je ne savais pas ce qui s'était passé. Je savais chez qui ils y étaient allés, je savais son nom, je savais la profession de cette personne qui était coiffeur, je savais que c'était le fils d'une ancienne domestique de ma grand-mère, et je savais qu'ils étaient allés passer 8 jours. Je savais des détails que ma mère m'avait dit, qui m'avaient assez émerveillé quand j'étais enfant, comme par exemple qu'il y avait tous les jours du gâteau au chocolat au dessert, je m'en rappelle. Et donc là, j'ai écrit ce voyage de noces. J'ai essayé de me tenir proche de la vérité comme un historien, avec les éléments qu'il a. Mais un historien qui remplit les vides. Mais tous ces vides-là, je dis que ce sont des vides que je remplis. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'est que vérité, parce que quand je mens, je le dis.
C'est vrai. Et en même temps, là, vous venez de citer un exemple parfait, presque de documentariste, le voyage de noces en Italie, les gens qu'ils ont rencontrés, ce qu'ils ont mangé, même si d'ailleurs vous imaginez qu'il pleut et en fin de compte vous vous rendez compte que non, il a pas plu, mais vous avez l'honnêteté de dire ah ben je me suis trompée. Et à l'inverse, quand vous essayez de comprendre pourquoi il a été arrêté par la Gestapo, vous esquissez 2 pistes, celle où il a peut-être en effet donné le nom d'un voisin médecin qui abritait des réfugiés espagnols et à cause de ses aveux, les personnes ont été arrêtées, ou vous imaginez qu'au contraire, il a été très brave et que d'ailleurs, en 1960, de façon tout à fait discrète et anonyme, le général de Gaulle est venu chez vous le féliciter. Donc, il y a un moment où l'auteur de fiction que vous êtes, Régis Geoffrey, a quand même envie d'extrapoler la réalité.
Oui, d'essayer de retrouver la vérité que je n'ai pas retrouvée. Il y a un truc qui est extraordinaire pour moi, mais qui n'a rien d'extraordinaire pour les autres, c'est que cette histoire de Gaulle montant un matin en catimini après que sa déesse est stationnée devant la porte à 7h du matin alors que la rue dort encore et allant voir mon père lui serrant la main en repartant, c'est une scène qui m'obsède depuis 15 ans, sans aucune raison. Et j'allais l'écrire dans une microfiction, et puis est arrivée cette histoire. Mais alors, cette histoire de Gaulle, je sais pas d'où elle sort, parce que j'avais pas du tout l'impression que mon père était résistant, et c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis 15 ans, et ça, je sais pas du tout pourquoi.
Une espèce de réminiscence, vous pensez?
J'y crois pas, non.
D'inconscient?
Non, je crois pas.
De fantasme?
De coïncidence. De coïncidence, c'est une coïncidence imaginaire avec quelque chose qui pourrait s'accrocher au réel, mais je crois pas au monde des esprits, donc a priori, je dis que c'est une simple coïncidence qui m'a assez surpris quand j'ai repensé à ça.
Au fond, Régis Geoffrey, c'est un livre où vous posez donc au-delà de la question du père, de l'image, du souvenir, la vraie question de l'écriture. Et cette affirmation qui m'a vraiment beaucoup frappée donc en ouverture, en exergue, la réalité justifie la fiction. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez exactement comment comprendre cette affirmation.
C'est-à-dire que quand on voit cette scène...
Et de façon plus générale, peut-être dans votre œuvre,
oui.
Parce qu'il me semble qu'en effet, ça éclaire aussi votre écriture depuis le début.
Tout à fait, mais là vous avez la preuve. Pourquoi ? Parce que si je vous raconte cette histoire, elle n'a ni queue ni tête. Simplement, je vous dis, ben oui, mais je vous la montre. L'extrait est là, je peux vous montrer les photos de mon père, je peux vous amener des témoins qui vont vous dire oui, c'est bien lui, etc. Donc, mais l'histoire ne tient pas debout. Donc, moi, je pense pas que la réalité dépasse la fiction. Je pense qu'elle la justifie parce que vous voyez bien que là, par exemple, on est bien obligé d'être dans la fiction. Autrement, on n'a rien. Là, après, j'ai une petite substance des possibles. J'ai mon père, je l'ai là, je l'avais pas.
Mais est-ce qu'à l'inverse, on peut dire, Régis Geoffrey, que sans réalité, il n'y a pas de fiction?
Ah, sans réalité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout, je vous confirme.
Mais j'aimerais savoir, est-ce que cette réalité qui justifie la fiction, c'est aussi ce qui a été le moteur de l'écriture de 3 livres très importants dans votre œuvre, qui sont Sévère, Clostria et La Ballade de Rikers Island, qui sont 3 livres inspirés de faits divers monstrueux sur lesquels vous avez enquêté. Est-ce que ça participe du même processus ?
Tout à fait. Oui, je pense que là, la fiction joue un grand rôle. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas parce qu'on m'attaque. Alors que visiblement, on n'attaque pas les journalistes, beaucoup moins. Bon, la loi en France s'y prête, puisque les romanciers n'ont pas les mêmes droits que les journalistes, c'est écrit dans la loi. Mais malgré tout, c'est très étrange. Par exemple, pour la balade de Rikers Island, qui était donc sur l'affaire DSK à New York, Dominique Strauss-Kahn n'a attaqué personne au monde sur cette affaire-là. Il a attaqué pour d'autres histoires, mais pour l'affaire du Sofitel New York, je suis la seule personne au monde à avoir été attaquée, alors qu'il y a eu des milliards d'articles sur lui, beaucoup plus défamatoires, il y a eu des dessins, il y a eu tout ce qu'on voudra, et c'est le romancier qui l'attaque. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de on attribue une grande importance à la fiction. Alors pourquoi je l'ignore. Vous savez ce que dit la loi, une des lois si restrictives en France et si haineuses des romanciers. Il y a un article de jurisprudence qui dit la littérature, le roman est pernicieux car il donne une impression de réalité. Voilà, l'écrivain n'a pas le même poids que les journalistes. Par exemple, moi, pour l'affaire DSK, je suis allé en Guinée-Conakry. Et si vous voulez, si un journal m'avait envoyé, j'étais renvoyé tout de suite. J'ai rien apporté de là-bas. Simplement, j'ai vu la Guinée-Conakry, j'ai vu le village où était Nafissa Toudialo. J'ai vu le sort des femmes. J'ai vu des filles de 12 ans sur le bord des routes, enceintes de 8 mois, prêtes à accoucher. J'ai vu ça. Alors quand après, en France, le jugement qui me condamne dit noir sur blanc... Après avoir lu votre dernière scène, on ne peut pas penser qu'il s'agit d'une scène violente basée sur la domination consentie. La domination, les femmes sont plus que dominées là-bas. Donc voilà, il y a un manque d'humanité même de dire ça, parce que personne n'a pris conscience que Nafissa Toudialo, c'était pas nous, c'était quelqu'un d'autre. Et que ce qu'elle a fait de repousser cette personne et de porter plainte, eh ben, c'est extraordinaire. Voilà, parce que voilà, c'est extraordinaire. Voilà.
Et de fait, est-ce que cette méthode de partir de la réalité, de faire une enquête et d'en réaliser une fiction s'applique aussi ici à ce roman, Papa ?
Ben ça pourrait, mais malheureusement non, puisque on tombe qu'il n'y a rien.
Oui, mais néanmoins, vous faites surgir une autre image de votre père.
Oui, mais ça c'est tellement plus intime et personnel que je ne peux pas tellement mettre de comparaison entre mon père et DSK. Je préfère non. Mon père.
Et du coup, c'est vrai que ça légitime totalement ce récit, parce que jusqu'ici, dans votre esprit, votre père était presque absent, effacé de votre mémoire, et avec ce fait saillant, cette arrestation, il devient réel, donc sujet de fiction.
Oui, moi, j'avais pas prévu d'écrire une fiction ou quoi que ce soit. Hein. Mais à un moment, j'ai tellement manqué de ce père, même en l'écrivant, que j'ai eu le besoin de le réinventer. C'est-à-dire de faire un chapitre où je raconte toute une journée à la mer, dans les Calanques, où on aurait eu des rapports de père à fils, toute une journée et toute une soirée.
Et ça, c'est extraordinaire, d'ailleurs, cette scène. Parce que... Comme lecteur, comme lectrice, on est persuadé de lire une scène réelle que vous désamorcez donc à la fin en disant « ça n'a pas existé, nous n'avons pas passé cette journée ensemble à pique-niquer, à pêcher près de la mer, sur le scooter, lui et moi, ça n'a pas existé, mais ça aurait pu exister ».
Ça a existé pour moi maintenant, c'est-à-dire que c'est un souvenir que je sais qu'il n'est pas vrai, mais qui est quand même un souvenir. C'est très curieux, c'est-à-dire ça a donné une épaisseur, une existence à mon père que je n'avais pas. Et en fait, quand je pense à mon père, ce souvenir inventé en fait partie, mais en fait profondément partie. Et je peux dire que c'est un souvenir qui a fait mon bonheur, mais qui le fait toujours. C'est un grand bonheur pour moi de repenser à ce souvenir et à cette journée qui n'a pas lieu parce qu'elle s'est quand même inscrite en moi.
Donc la littérature, c'est le lieu où par l'écriture, d'abord, on peut faire ressurgir des êtres qui ont disparu, les rendre plus beaux peut-être, et en tout cas, leur donner une telle tangibilité qu'il y a une sorte de dialogue qui s'instaure au-delà de l'absence. Et c'est comme si vous émettez l'hypothèse, Régis Geoffrey, que tout ce que vous avez écrit jusque-là, et Dieu sait que vous avez une œuvre importante, n'était que la suite sans fin de ce que vous n'aviez jamais dit à votre père ou ce que vous ne vous étiez jamais dit.
Ce qui est vrai, c'est que vous avez un père sourd qui ne parle pas, vous n'êtes pas contredit. Donc, et vous n'êtes contredit par personne. Donc, vous parlez, vous avez tendance à parler à l'infini d'une certaine façon. Il est peut-être la cause indirecte de cette vie d'écriture que j'ai eue. Et en réalité, moi, je remercie, je le dis d'ailleurs, à genoux l'alphabet et la littérature, parce que ça m'a vraiment permis, de le faire surgir, de pas, presque de l'aimer. Alors que je pense qu'il m'avait pas tellement laissé la possibilité de l'aimer beaucoup. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, moi, quand je pense à lui maintenant, il a toute la chair de ce livre et c'est une chair positive. J'ai une mémoire de mon père qui passe aussi par ce livre. Et c'est une mémoire, j'allais dire, augmentée ou même, je dirais, enrichie. C'est une mémoire, c'est comme si je l'avais plongé dans un bain d'or. Voilà.
C'est comme si vous étiez devenu écrivain aussi pour avoir cette relation avec lui qui n'existait pas dans la réalité.
Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais pas pourquoi je suis devenu écrivain, mais en tout cas, je suis très content de l'être devenu. Voilà. C'est depuis quelque temps, je me dis, les artistes sont la meilleure part de la vie, même si ça peut être difficile au niveau matériel, ce qui n'a pas été pour moi. Mais je crois que finalement, c'est eux qui ont la meilleure part de la vie. C'est eux qui ont eu la meilleure part. Je sais pas pourquoi. C'est eux qui auront touché certains états intérieurs qui sont des états de bonheur complet.
Et lui qui voulait être professeur de français et qui était encore vivant quand vous avez publié vos premiers livres, il était fier que vous soyez écrivain ?
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il parlait pas beaucoup, oui, il était très fier. Oui.
Mais est-ce que ce livre a changé quelque chose dans votre écriture, Régis Geoffrey ?
Le livre pourrait avoir changé cette chose, c'est que ce passé dont je croyais ne pas pouvoir parler, je me suis aperçu que je pouvais en parler. Et surtout, c'est quelque chose d'extrêmement curieux, c'est que je suis arrivé, c'était le but, de mettre la focale juste sur mon père, alors sur ma mère aussi, parce que je pouvais pas faire autrement. Mais par contre, j'ai laissé dans le flou tout le reste, toute la famille, toutes les autres personnes. Et moi, j'ai horreur de cette façon de mettre en scène des gens qui vous ont rien demandé, des personnages privés. Et donc ça m'a donné une grande liberté. Donc je peux raconter mon enfance, je peux raconter ma vie sans raconter la vie des autres. Voilà. Et ça a été une découverte presque technique. Je vous dis, c'est comme un théâtre où on arriverait vraiment à n'éclairer qu'un acteur et puis que tout soit dans l'obscurité complète, ce qui n'arrive jamais. Mais là, c'est l'impression que j'ai eue, le reste est flou. Même mes grands-mères sont floues, tout est flou. Et malgré tout, tout est net. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui vois que le flou est autour. Et ça, c'est une découverte importante pour moi. Parce que ça veut dire que je peux parler de moi sans parler des autres. Je peux parler de l'interaction que j'ai eue avec les autres, mais sans les souiller par l'écriture, sans craindre de les contaminer en m'en emparant, quoi. Voilà.
Donc, décidément, c'est l'écriture d'un livre qui a 1000 bénéfices.
Ah oui, ça a été finalement ça a été un grand bonheur après d'avoir écrit ce livre. Oui, ça a été un grand bonheur. Je pense pas que ça a été libérateur. Non, c'est la littérature qui m'a permis d'aller vers ce père. Mais je l'ai gagné, ce père. Je l'ai gagné avec de l'écriture. Je l'ai gagné en l'écrivant. Je l'ai gagné en le sculptant, en lui donnant une matière. Voilà. C'est-à-dire cette mémoire, il y en avait peu, et moi j'ai donné une matière. Je l'ai créé, mon père, je l'ai créé. Mais en même temps, maintenant, ce personnage créé, j'allais dire, il est à moi, c'est mon père. J'ai redonné un père à ce gosse qui en avait si peu.
Merci beaucoup, Régis Geoffrey. Je rappelle donc le titre de ce nouveau livre, Papa, qui est apparu aux éditions du Seuil.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.